RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Salut à tous et bienvenue dans l'Intégral Tour. Si vous nous rejoignez sur RMC, ça continue jusqu'à 21h. On est là bien évidemment pour revenir sur ce qui semble quand même avoir scellé le sort de ce Tour de France, c'est-à-dire la 19e étape aujourd'hui entre Lourdes et la Reims. Remportée certes par le Slovène Primoz Roglic, mais Geraint Thomas n'a que 19 secondes de retard sur la ligne d'arrivée. Il est arrivé deuxième. Romain Bardet, le français d'AG2R La Mondiale, lui fait 3. Tous les favoris qui sont quasiment arrivés en même temps, si l'on accepte Nairo Quintana qui lui a perdu plus de 7 minutes justement sur les meilleurs du classement général. Mais au classement général justement, eh bien Geraint Thomas est toujours en tête. Il consolide même son maillot jaune. Tom Dumoulin, le néerlandais de l'équipe Sunweb, est deuxième à 2 minutes 05. Et puis Primoz Roglic prend la troisième place, il la chip à Christopher Froome. Primoz Roglic est à 2 minutes 24, là où Froome est à 2:37. Romain Bardet qui gagne une place au classement général, qui est désormais 7ème à 5 minutes et 15 secondes. Bonsoir Thierry Guimard.
Oui, bonsoir.
Que retenir de cette étape, si ce n'est la solidité, j'ai envie de dire quand même, de Geraint Thomas qui aujourd'hui, bon, en même temps, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire, hein, même si ça a été très très agité comme étape, mais le peu qu'il a eu à faire, eh ben, il l'a très bien fait, Geraint Thomas.
Oui, ce que l'on peut retenir sur cette étape, que c'est incontestablement la plus belle de ce Tour de France. Je parle, bien sûr, sur les étapes de montagne, bien sûr, mais c'est vraiment la plus belle étape, avec des mouvements qui sont partis très tôt dans la montée du Tourmalet, entre autres avec les offensives de Landa et puis de Romain Bardet. Alors c'est vrai que Geraint Thomas a été d'une très grande sérénité, n'a jamais été en difficulté, comme il ne l'a d'ailleurs jamais été depuis le départ de ce Tour de France. Jamais on a senti la possibilité de pouvoir l'attaquer. Et puis bon, aujourd'hui, il a aussi fait ce qu'il fallait pour protéger le podium. Il n'y est pas arrivé, mais on y reviendra. Le podium de Chris Froome. Non, vraiment une étape absolument extraordinaire. Des attaques du vainqueur de l'étape.
C'est dommage que ça arrive si tard, d'ailleurs. Hein. C'est dommage qu'il ait fallu attendre la dernière étape pour voir une vraie bagarre à partir du col du col des Bordères, hein, donc à plus de 60 km de l'arrivée quand même.
Oui, mais c'est parce qu'il y a 3 semaines de course et qu'au bout de 3 semaines, on peut arriver à faire ce type d'étape, parce qu'il y a la fatigue, parce que l'équipe Sky aujourd'hui était un petit peu moins forte.
Heureusement, ça va, il y avait des lotos de jumbo qui roulaient pour elle.
Non, ils roulaient pour eux aussi, mais ils sont mis en difficulté. En fait, on se rend compte que si on accélère le rythme en tête de peloton, on les met au-dessus de leur watt, et ça, ils n'aiment pas. Bien quand même que lorsqu'il restait 6 coureurs, il y avait encore 3 Sky, mais 3 Sky avec un Froome qui était en difficulté. Donc la puissance de l'équipe, par la faiblesse, on va dire, de Chris Froome, était moins puissante et surtout avait moins de capacité de jeu. Et c'est la raison qui fait que Geraint Thomas, lui, n'a pas donné un coup de pédale de la journée. Je crois qu'on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui sa victoire. C'était l'homme le plus fort. C'est regrettable peut-être que Roglic n'ait pas bougé plus tôt, parce que je pense qu'il était très très proche, et le numéro qu'il fait aujourd'hui
dans
les ascensions et surtout dans la descente, c'est fabuleux.
Ouais, mais véritablement tout le monde à la planche, non, faut pas exagérer, mais en tout cas il a été vraiment au-dessus du lot dans cette descente du col d'Aubisque. Juste avant de revenir justement sur Primoz Roglic, d'abord à ceux qui se demandaient, à ceux qui étaient des adeptes de la théorie du complot, oui, Froome, etc., il fait exprès de laisser gagner Geraint Thomas. On a vu aujourd'hui qu'a priori il était quand même largement moins en forme que les autres, ou alors il fait un cinéma incroyable.
Non, là aujourd'hui il n'était plus dans le cinéma. Alors vous savez pourquoi on a toujours pris de la réserve par rapport à Chris Froome? Ben, parce que d'abord il est pas vainqueur du Tour ou du Tour d'Espagne comme ça tout à fait par hasard, mais qu'il nous a habitués effectivement à des comportements qui laissaient des fois un petit peu pantois. Quand on voit par exemple, et là Tom Dumoulin devait s'en rappeler et s'en méfier aussi, mais quand on voit la façon dont il a dominé, comment il il a, enfin pas dominé, mais comment il a gagné le Giro, tout le monde a été un petit peu trop traumatisé. Rappelez-vous ce raid de 80 kilomètres en solitaire, c'était hallucinant pour les Thibaut Pinot, les Tom Dumoulin qui étaient en poursuite derrière. Je parle de ceux qui étaient juste en poursuite, oui, mais pas ceux qui ont fini à 10 minutes et qui étaient dans les 10 premiers du classement général. Donc on s'attendait toujours. Mais attends, est-ce qu'il est capable de nous le refaire? Est-ce qu'il est capable de le refaire? Et puis, eh bien, la réponse ce soir, c'est non, il n'était pas capable de le refaire.
Et en tout cas, tu donnes cette réponse. On a vu la réponse. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que Primoz Roglic, vainqueur aujourd'hui, on va pas dire que c'est une révélation parce qu'il a quand même déjà 29 ans, Primoz Roglic. Mais est-ce qu'on est parti pour en manger pendant quelques années de Primoz Roglic? Parce que quand même, là, sur ce qu'il monte sur ce Tour de France, c'est assez impressionnant.
Alors, c'est impressionnant. Il devrait logiquement, encore qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que il n'a que 13 secondes d'avance sur Froome. Et on peut toujours avoir peur de Froome. Sur ce qu'il a montré physiquement là aujourd'hui, logiquement, il devrait conserver sa troisième place. Et puis, est-ce qu'il ne va pas finir demain dans ce contre-la-montre? C'est aussi un spécialiste de ce type d'épreuve. Est-ce qu'il n'est pas capable de reprendre 19 secondes à Tom Dumoulin, qui est le champion du monde en titre, mais qui à aucun moment n'a montré une supériorité en termes de puissance, en termes de rythme? Et puis ce qu'a fait Roglic aujourd'hui, il a mis en route, il a fait sauter tout le monde, et puis à la pédale, il a lâché tout le monde dans la descente.
Et puis il a insisté parce qu'il aurait pu se décourager.
Oui, mais comme il ne s'est pas découragé, c'est physiquement que derrière les autres, parce qu'avec le point de mire, c'est quand même plus facile de suivre. Eh bien, au bout de 15 kilomètres, 16 kilomètres, derrière, au niveau de la condition physique, ils ont craqué. Alors pourquoi ils ont craqué? Parce que il y avait trop de tension, et à un moment vous êtes obligé de débrancher, sinon vous allez aller à la faute. Et c'est ce qu'a fait Tom Dumoulin. À un moment, il s'est dit, là je peux plus continuer à rester à 20 mètres, 25 mètres, parce que je vais aller à la faute. Et physiquement, ce qui démontre bien que physiquement Tom Dumoulin, qui est quand même un très bon descendeur également, a été obligé de le laisser filer.
Et cette étape en tout cas, et ce Tour de France, même si on le savait, c'est quand même l'avènement des rouleurs, justement. Quand on voit que Geraint Thomas domine le classement général devant Tom Dumoulin, Primoz Roglic, on peut même mettre Froome
il en a gagné 4, donc on va le laisser dans la boucle.
Mais voilà, c'est quand même l'avènement des rouleurs, hein. C'est assez clair. Les grimpeurs aujourd'hui n'ont pas leur place sur un Tour de France pour jouer le classement général. Je parle des purs grimpeurs comme Romain Bardet, comme Nairo Quintana, ou comme Mikel Landa par exemple.
Oui, les vrais grimpeurs qui ne sont pas rouleurs ne peuvent pas gagner le tour. Ça a toujours été vrai, ou à 90% ça a été vrai. Il faut être un très bon, pas obligatoirement le plus fort du monde contre la montre, mais il faut être très bon contre la montre et être un très bon grimpeur pour gagner le Tour de France. On ne gagne pas le Tour de France si on n'est pas un grand rouleur. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle démonstration cette année.
Merci Cyril d'avoir été avec nous, et on te donne rendez-vous à 19h tout à l'heure.
Mais on s'est régalé aujourd'hui.
Bah oui, on s'est régalé. Il
faudra se rappeler de cette étape.
Voilà. Hein. À ceux qui sont un petit peu chafouins, on va dire, en regardant ce Tour de France, effectivement.
Oui, mais on peut pas avoir cette étape-là aussi tous les jours.
Non, bien sûr. Mais il était pas si mal que ça, ce Tour de France. Il est pas fini déjà, et il était pas si mal que ça.
Oui, on attend encore une victoire française quand même.
Sur les Champs-Élysées. Hein?
Oui.
Oui, tu veux dire, une victoire française au général, tu parles?
Non, je parlais de ce tour de cette année.
Ah oui.
On aura le temps de parler des prochains, mais pourquoi aussi, on va regarder, pour Pierre Latour.
Ah oui.
Le nouveau champion de France, qui a fait une très très belle performance, athlétique sur le championnat de France, de voir où il va se situer, avec les meilleurs rouleurs du monde, sur le final d'un grand tour.
Et Roger Pierre Latour, en tout cas, qui est 13e, le coéquipier de Romain Bardet, ce soir, au classement général. Et maillot blanc, bien évidemment. Il a 6 minutes d'avance sur son concurrent principal, Egan Bernal, le Colombien de la Sky. Merci Cyril, à tout à l'heure, 19h.
À tout à l'heure.
Voilà, et on va écouter, tiens, ben justement, je vous parlais de Romain Bardet qui a attaqué très très tôt hein, dans le col du Tourmalet pour tenter, eh bien, pourquoi pas de s'offrir une étape, de sauver son tour en quelque sorte, qu'il faut bien le dire, est un petit peu moins bon que ceux des années précédentes. Romain Bardet qui pointe toujours au 7e rang ce soir du classement général à 5 minutes 15, enfin toujours, il a gagné une place en l'occurrence, mais il a terminé 3e de cette étape. Romain Bardet, forcément un petit peu déçu du manque de réussite.
Non, j'ai fait le maximum, vraiment. J'ai cru la victoire jusqu'au bout, et puis dans les descentes qui ont du moulin, les signes que sur Roglic. Des purs rouleurs comme ça, il n'y avait plus rien à faire, donc voilà, c'est... Je sais pas ce qu'il aurait fallu faire plus sur ce tour, on s'est battu. Voilà, c'est juste pas voulu sourire, c'est très décevant, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, là, aujourd'hui, j'ai décidé de me porter à l'attaque dès le Tourmalet. Pour essayer de prendre un peu de plaisir sur ce Tour de France. C'était pas trop le cas les premières étapes, et là ça allait un peu mieux, les jambes ont répondu plutôt bien, donc voilà, je pensais vraiment à la victoire d'étape dans le final. Je passe encore à côté.
Voilà, Romain Bardet, troisième donc de cette étape arrivée à La Reims aujourd'hui. On accueille Rémi au 32-16. Salut Rémi.
Oui, bonjour Arnaud, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va bien, ça
bon,
va bien.
On a vu une belle étape quand même.
Ah bah là oui, au tout début déjà dans les Alpes, bon, on pouvait se plaindre du manque de spectacle et des attaques au kilomètre. Là c'est pas un kilomètre, là c'est 100 km, alors comment on peut se plaindre? On a vu une belle étape, un bon Romain Bardet qui a voulu se prouver, je pense. Au-delà d'étape, il a voulu se prouver qu'il avait encore les jambes, et il a voulu prouver que voilà, c'était juste une petite défaillance. Mais voilà, il y a Landa qui a attaqué, du coup bah Fuglsang il s'est dit bah tiens, si Landa il y va, moi je vais y aller. Bardet il s'est dit bah tiens, pourquoi pas, moi je vais y aller. Mackay s'est dit bah tiens, je vais y aller. Il y a l'autre Vakarin, il a fait bah de toute façon bah allez, tant qu'à faire, bah moi j'y vais. Donc voilà, après c'est très bien joué, les mecs ils attaquent de loin. Par oui. contre, le seul dommage c'est que l'auto Jumbo a roulé. C'est le seul petit bémol, mais bon, on va pas en mettre parce qu'on va dire qu'ils ont sauvé, on va dire qu'ils voulaient sauver leur deuxième place de Primoz Roglic. Ouais. Donc voilà.
Bon, en tout cas, quand même de la satisfaction, voilà, d'avoir. Je parlais des esprits chafouins il y a quelques instants avec Cyril Guimard qui disait c'est un tour ennuyeux, machin. C'était pas si ennuyeux que ça au final. Quand on voit ce genre d'étape, après on peut pas les avoir tous les jours. Hein.
Bah non, parce que ça les a tous les jours, c'est. On va être content du spectacle, mais après on va critiquer. Ouais, bah par contre, ces bonhommes, disons qu'ils n'ont pas de l'eau dans leur bidon. Donc ouais, non, faut en avoir, mais faut pas en avoir tout le temps. Faut savoir doser. Faut que les mecs, bah, dès qu'ils ont les jambes, voilà. Et Bardet y allait, bah, après, voilà, il s'est pris. Après, il n'a pas pu trop creuser l'écart. Je crois que c'était 3 minutes le maximum, mais voilà, après. Il a tenté et ça a réussi, parce que sans le Lotto Jumbo, est-ce que Sky serait rentré sur Romain Bardet?
Bah, ils auraient pas cherché sans doute sans Roglic.
Ouais, il l'aurait laissé à 30 secondes d'une minute, parce qu'il y avait, alors, au-delà de Romain Bardet, de Vakarin, de Maika et de Fuglsang, il y avait surtout Landa. Donc il les aurait laissés à une minute devant. Allez, on vous donne la victoire d'étape. Et puis comme ça, eux, ils se seraient battus de leur côté entre favoris. Mais c'est vrai que par contre, Primoz Roglic, je sais plus c'est qui posait la question, est-ce qu'on en a pour un petit moment?
C'est moi qui dis ça.
Ouais, eh ben, moi je pense que il sait très bien descendre, parce que bon, ben, soit ski, quand on est 100 km/h lancé, comme un frelon, comme dirait Vincent.
On rappelle que c'est un ancien as du saut à ski, justement, Primoz
Roglic.
Voilà,
c'est ça, ouais. Et quand il sait très bien descendre, il a pas peur de la vitesse. On a vu qu'il sait très bien monter, parce que l'an passé, il passe au sommet de deux géants des Alpes. Là, il passe quand même une belle étape pyrénéenne. Au chrono, bah, il est vice-champion du monde, donc on va dire qu'il se débrouille pas mal. Donc est-ce que ce serait plutôt l'une des futures références avec Tom Dumoulin déjà lors du prochain Tour de France, Vuelta, Giro, je sais pas ce sera quoi son objectif l'an prochain. Mais en tout cas, il peut clairement viser un grand tour dès l'an prochain.
C'est entendu. Merci.
Voilà. Et puis moi, demain, pronostic Tom Dumoulin.
Bah, vas-y, je t'en prie. Merci. Allez, merci Rémi. Bah, voilà. Je suis comme toi. Merci Rémi. Bonne soirée. Du côté de Bron, dans le Rhône. 18h25, l'intégral tour revient dans un instant. Je vous rappelle donc le résultat du jour avec la victoire du Slovène de la team Lotto Jumbo, Primoz Roglic, devant Geraint Thomas, 19 secondes d'avance sur le Britannique. Romain Bardet a sprinté. Il se classe 3e de l'étape devant Dan Martin, Rafał Majka, Tom Dumoulin, Mikel Landa, Christopher Froome et Kreuzweg. Il lance Zakarin est 10e. Et puis le grand perdant du jour. L'un des grands perdants du jour, c'est évidemment Nairo Quintana qui a perdu 7 minutes et 9 secondes et qui voit pas mal de monde lui passer devant au classement général, puisque Nairo Quintana est désormais 9e de ce classement général, dominé par Geraint Thomas devant Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Christopher Froome 4e, Kreuzweg 5e, Mikel Landa 6e et Romain Bardet, le premier français, se retrouve 7e. On reparle de vélo à partir de 19h avec toute la Dream Team dans un instant. Tiens, on va revenir sur cette grosse info, c'est l'info évidemment foot de la journée. Les Girondins de Bordeaux officiellement vendus à un fonds américain après 19 ans passés entre les mains du groupe M6, rachat pour un montant total de 70 millions d'euros. On sera en Gironde justement avec notre correspondant Nicolas Paolorsi dans quelques petites secondes, et puis on parlera également du PSG et de toutes vos infos mercato d'ici à 19h. A tout de suite dans l'intégral tour, 18h26.
RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
18h31, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Tour sur RMC. 19e étape aujourd'hui entre Lourdes et la Reims, étape de montagne, la dernière grande étape on va dire de ce Tour de France. Elle a été remportée par le Slovène Primoz Roglic qui s'est imposé avec 19 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Romain Bardet termine 3e de cette étape, pas de changement majeur au classement général, si ce n'est que Primoz Roglic chip la 3e place sur le podium à Christopher Froome. C'est Geraint Thomas qui est toujours en jaune, il consolide un petit peu son avance sur Tom Dumoulin, 2 minutes 05 d'avance sur le néerlandais de la Sunweb. Donc Primoz Roglic 3e, Christopher Froome 4e, et puis le premier français c'est Romain Bardet qui gagne une place au classement général. Il bénéficie de la défaillance de Nairo Quintana, il pointe ce soir à la 7e place à 5 minutes 15 du maillot jaune Geraint Thomas. On va oublier un petit peu le vélo, on en reparlera tout à l'heure à partir de 19h avec toute la Dream Team du football. Dans un quart d'heure, toutes vos infos mercato. Tristan Molinari du service mercato justement sera avec nous pour tout vous dire, des transferts et des grosses infos à retenir aujourd'hui. Dans un instant, on sera également à Singapour, au plus près du Paris Saint-Germain. Mais d'abord, c'est évidemment l'info de ce début de soirée. Les Girondins de Bordeaux officiellement vendus à un fonds américain après 19 ans entre les mains du groupe M6, c'est un rachat pour un montant total de 70 millions d'euros. On est en ligne avec notre correspondant en Gironde, justement. Bonsoir Nicolas Paolorsi.
Salut Arnaud, salut à tous.
C'est donc officiel, tu avais pu t'en rendre compte toi-même avant l'officialisation. Donc c'est vendu, les Bordelais qui sont rachetés par ce fonds américain. Tu vas tout nous dire d'ailleurs. Ça met fin à plusieurs semaines, plusieurs mois d'atermoiement. Hein.
Ouais, ça a été compliqué, les négociations qui ont débuté au mois de décembre 2017, début de l'année 2018. Allez, et puis il y a eu toute une sorte de rumeurs qui sont sorties petit à petit sur ce fonds d'investissement américain présidé par Joseph Dagrossa. C'est un investisseur américain de 53 ans qui est basé à Miami, son fonds d'investissement GACP. Il a fait fortune, Joseph Dagrossa, en essayant d'investir dans des fast-foods qui faisaient faillite, et puis petit à petit il a monté sa fortune là-dedans. Donc aucun rapport avec le monde du sport, au contraire d'un Franck Marcourt par exemple, le propriétaire de l'Olympique de Marseille qui était patron de la franchise de baseball des Dodgers à Los Angeles. Joseph Dagrossa n'a jamais investi dans le sport, néanmoins il a construit et il a fondé deux holdings avant de s'intéresser aux Girondins de Bordeaux, deux holdings spécialisés dans le monde du foot qui montraient son intéressement aux Girondins de Bordeaux. Tu le disais, cession de 70 millions d'euros, alors il reste encore quelques détails à finaliser. M6 est en tout cas en négociation exclusive à 100% avec ce fonds d'investissement américain. Le processus de vente ira à son terme. Il reste encore 2-3 petites choses à régler administratives, mais la cession sera complète au mois d'octobre. Au mois d'octobre, les Girondins de Bordeaux seront complètement à 100%, à 99%, sous pavillon américain. Il reste encore 2-3 petites choses à finaliser, ouais, au niveau administratif.
Un tout petit mot de l'ambiance. Je crois savoir que tu étais avec les salariés aujourd'hui, Nicolas, du club. Qu'est-ce qu'on en pense de ce rachat ?
C'est vrai que la transition a été compliquée cet été, cette intersaison est compliquée, que ce soit au niveau du sportif, puisque Bordeaux n'a enregistré aucun renfort. Il y a eu des départs, mais aucun renfort pour l'instant du côté des Girondins de Bordeaux, alors que la saison a déjà débuté avec la Ligue Europa. Du côté des salariés, c'est pareil. On a été dans le doute, et cet après-midi, les salariés ont été mis au courant par Nicolas de Taverneau que le club changeait de main ça veut dire qu'il y aura des audits. Il y a déjà eu des audits en interne qui ont été faits pour essayer de tailler dans les effectifs. Les propriétaires américains de GACP l'ont formulé à Nicolas de Taverneau dès le début de leur contact. Il va essayer d'assainir le club et donc ça passe par la vente des joueurs. Ça passe également par un effectif un petit peu plus restreint du personnel au niveau du château du Haillan. Donc au niveau des salariés, c'est un petit peu compliqué, on est dans le flou. Par contre, côté supporters, on est plutôt optimiste, et ça c'est vrai que c'est assez surprenant pour les Girondins de Bordeaux qui sont une institution du foot français. On est ambitieux et on est plutôt content de voir un investisseur comme Franck McCourt à l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il y a des Américains également qui sont intéressés à l'AS Saint-Etienne, ça a capoté dans les tout derniers moments, mais du côté des supporters, on se dit que peut-être ça va permettre aux Girondins d'aller vraiment taquiner ce top 5 de la Ligue 1, okay, dont ils s'étaient un petit peu éloignés ces derniers temps.
Merci Nicolas Paul Orsi pour toutes ces infos. Évidemment, on te retrouve si tu en as encore plus. Et toutes ces infos sont à retrouver sur notre site rmcsport.fr. De Bordeaux, on va passer au Paris Saint-Germain qui lui se déplace en ce moment en Asie, enfin se déplace, est en Asie depuis déjà quelques jours à Singapour, c'est au sud de la Malaisie. Singapour où il jouera demain son premier match de préparation dans l'International Champions Cup. Donc à Singapour, il y a eu cette défaite face au Bayern Munich il y a quelques jours. Demain, ça sera face à Arsenal. Pour parler de tout ça, on est en ligne avec notre envoyé spécial Loïc Tanzi. Salut Loïc.
Salut Arnaud.
Les premières impressions de Thomas Tuchel sur son groupe, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, lui qui s'est donc exprimé en conférence de presse, quelles sont-elles ?
Alors aujourd'hui, conférence de presse, oui, au National Stadium de Singapour. Il y aura le match demain face à Arsenal. Et Thomas Tuchel a expliqué qu'il faisait un peu avec les moyens du bord en ce moment à Paris, puisqu'il n'y a pas les stars. Neymar n'est pas là, Mbappé n'est pas là, tous les Brésiliens, Thomas Meunier n'est pas là non plus. Tous les quarts de finalistes au moins de la Coupe du Monde ne sont pas arrivés encore à Singapour. Et la plupart ne viendront pas à Singapour avec le Paris Saint-Germain. Donc il fait avec les moyens du bord, il teste des choses, comme ce Lassana Diarra en position de défenseur central. Et dit que pour le moment, il est très content de son groupe, de son jeune groupe, parce que son groupe l'écoute. Et il est très à l'écoute, même si les séances sont longues. Ils prennent le temps d'apprendre, ils veulent apprendre, ils veulent s'imprégner de la méthode Thomas Tuchel. Donc il est très heureux de voir qu'il arrive à modeler son groupe. Il va devoir recommencer avec certains joueurs, mais il arrive à modeler son groupe et il espère que demain sur le terrain, on pourra voir les premiers pas de Thomas Tuchel en mode sur le terrain, quoi.
Alors justement, quelle impression il t'a fait Thomas Tuchel, Loïc, en conférence de presse ?
Détendu. Très souriant. D'ailleurs, il y a eu une question d'un confrère qui lui a dit « Mais expliquez-nous, vous souriez tout le temps, vous avez l'air super heureux, expliquez-nous pourquoi. » Mais il a dit « C'est mon mode de vie, si jamais je ne souris pas, mes joueurs ne vont pas sourire. Quand vous parlez à quelqu'un, vous souriez, la personne en face de vous va sourire et va mieux comprendre les choses. » Donc il est très souriant, très détendu, il sait où il veut aller. Il a dit « J'ai eu un accueil exceptionnel de la part du Paris Saint-Germain, je suis dans un club énorme. Ça fait plusieurs mois déjà que j'ai pris ma décision de venir à Paris. » Il a même dit d'ailleurs qu'il n'avait pas été contacté par Arsenal et qu'il avait pris sa décision de venir à Paris avant même le départ d'Arsène Wenger à Arsenal. Donc il est un homme heureux dans le meilleur des mondes, mais maintenant il y a le terrain, on va voir ce que ça donne dès demain face à Arsenal.
Il y a le terrain justement avec des entraînements également tout au long de la semaine et ce match demain face à Arsenal. Les infos justement sur la compo probable de demain, quelles sont-elles Loïc ?
Alors, il y a eu beaucoup de ballons aujourd'hui durant l'entraînement ouvert du Paris Saint-Germain devant du public d'ailleurs, hein, 200 personnes à peu près au National Stadium. Beaucoup de ballons et encore une fois, cette défense à 3 avec, on devrait retrouver Alec Djorgen sur le côté droit puisque le jeune Colin Dagba est un petit peu touché, il n'a pas participé à l'entraînement aujourd'hui. Cette défense à 3 avec Loïc Mbesso, Lassana Diarra et Kevin Riemann dans l'axe à gauche, Stan Lensoki devant eux, Adrien Rabiot, Antoine Bernet, Tufiki Nkunku et Timothy Weah avec des changements déjà. On peut penser que Marco Verratti rentrera, Julian Draxler également. C'est les changements qu'a fait Thomas Tuchel durant la petite mise en place qu'il a fait ici au National Stadium de Singapour.
Alors ce match
des jeunes, hein, une équipe très jeune.
Une équipe très jeune, effectivement. On rappelle que Angel Di Maria d'ailleurs ne s'est pas envolé avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Il pourrait les rejoindre dans les prochains jours, c'est ça ?
Oui, il arrive dimanche, Angel Di Maria, et Thomas Tuchel a rappelé une fois encore en conférence de presse qu'il avait autorisé Angel Di Maria à ne pas venir, à ne pas reprendre l'entraînement lundi, comme Giovanni Lo Celso. Il a dit, ce sont des joueurs différents. Giovanni Lo Celso est un joueur très jeune, qui a peu joué durant la Coupe du Monde, donc il peut revenir plus tôt. Angel Di Maria est un peu plus vieux, un peu plus expérimenté, donc il avait besoin de prendre un peu plus de temps de vacances. Rien à voir avec un transfert, rien à voir avec des envies de départ. C'est le joueur et son entraîneur qui ont parlé ensemble, et qui ont décidé ensemble qu'Angel Di Maria n'arriverait que dimanche à Singapour.
Alors ce match demain face à Arsenal pour le Paris Saint-Germain va marquer des retrouvailles entre le PSG et Unai Emery, qui lui a déclaré finalement retrouver des amis. Unai Emery qui est désormais l'entraîneur d'Arsenal.
Oui, juste avant Thomas Tuchel, c'est Unai Emery qui est venu en conférence de presse. Donc on lui a demandé quel est le sentiment de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui s'apprête à affronter comme ça dès les premiers matchs qu'il va disputer avec Arsenal, son ancienne équipe. Et il a dit je suis reconnaissant envers le Paris Saint-Germain, envers les deux ans que j'ai passé à Paris. Maintenant j'arrive à Arsenal avec mes idées, avec mon envie de bien faire comme je l'ai essayé de le faire au Paris Saint-Germain. Mais les mots les plus forts ont été ceux de Thomas Tuchel envers Unai Emery, un homme qui a beaucoup qui trouve que Unai Emery est impressionnant, qui a gagné des titres. Et d'ailleurs, je vous propose de l'écouter. Vous allez le voir. C'est très fort ce que dit Unai Emery sur son collègue, son ancien collègue Unai Emery.
He sent me a warm message for the welcome and be the next coach from PSG. So I was very thankful about that.
Il m'a envoyé un sympathique message quand j'ai été nommé, mais je n'ai pas souhaité discuter avec lui afin de me faire ma propre opinion du club. Quand on se verra, on discutera de football et d'autres choses. C'est un grand entraîneur qui a gagné beaucoup de titres.
Successful coaches in Europe. He has won so many titles. Voilà, donc Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, sur ses retrouvailles entre le PSG et Unai Emery, son prédécesseur justement sur le banc du PSG. Loïc, on rappelle le programme pour le Paris Saint-Germain sur la semaine à venir, avec évidemment quelque part tout là-bas en point de mire ce trophée des champions, premier match officiel de la saison la semaine prochaine face à Monaco.
Oui, ça va être très dense. Match demain face à Arsenal. Dimanche, on a un nouvel entraînement au National Stadium et une nouvelle conférence de presse, puisque lundi, il y a un match. Donc, il y a que deux jours. Un jour de repos dimanche, deux jours entre les deux matchs. Lundi, nouveau match face à l'Atlético de Madrid. Mardi, des événements commerciaux dans la ville de Singapour. Et mercredi, on s'en va tous en Chine à Shenzhen pour le trophée des champions. Et ce match samedi face à Monaco, le premier match officiel de la saison. Il l'a rappelé, Thomas Tuchel. Je veux une équipe qui a faim de gagner et qui prend l'habitude de gagner. Ça passe par gagner en match amical et par gagner ce trophée des champions face à Monaco.
Merci Loïc Tonzi.
Merci beaucoup Arnaud, merci à tous.
Et on te retrouvera demain donc pour le résultat de ce match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Et évidemment l'Atlético, ce sera lundi. Tiens, 18h42, on continue à parler de foot sur RMC. Vous ne le savez peut-être pas, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends tout de suite. Il y a de la Ligue 2 ce soir. Et oui, reprise du championnat de France de Ligue 2. Qui de meilleur pour en parler que Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Arnaud, salut à tous.
C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que tu es un spécialiste de la Ligue 2. Et évidemment, que tu connais extrêmement bien l'antichambre de la Ligue 1 qui elle reprendra dans 15 jours. Alors, pour en parler donc de ces matchs entre le Red Star et Niort, entre l'AC Ajaccio et Troyes, entre Nancy et Béziers, entre Valenciennes et Auxerre, entre le Gazélec et le Paris FC, entre Clermont et Châteauroux, et il y en a un dernier qui m'échappe, entre Grenoble et Sochaux, coup d'envoi de ces matchs ce soir à 20h. On garde le même format que la saison dernière.
Exactement, 20 clubs de Ligue 2, c'est comme pour la Ligue 1, et surtout ce format que vous avez certainement suivi en fin de saison dernière. Les deux premiers vont monter directement en Ligue 1. Ensuite, il y aura des matchs de barrage. Un barrage déjà entre le 4e et le 5e sur la pelouse du 4e en match unique, et le vainqueur de ce match affrontera le 3e sur la pelouse du 3e en match unique. Le vainqueur de cette rencontre aura la chance de défier le 18e de Ligue 1, cette fois-ci en match aller-retour, retour chez le club de Ligue 1 pour tenter d'accéder à l'élite. Il y a eu quelques débordements la saison dernière, on s'en souvient, avec ce match entre Ajaccio et Le Havre, gagné au tir au but par les Ajacciens, mais l'histoire du bus qui a été bloqué en arrivant au stade. Ça devrait mieux se passer cette saison, on l'espère en tout cas. Mais ce système de barrage qui est plutôt sympa, puisque ça permet à tout le monde de rester concentré jusqu'à la fin de la saison.
Ça a créé de la tension, effectivement, on l'avait vu, et c'était assez haletant. 5 nouveaux cette saison dans ce championnat.
Les relégués, évidemment, les relégués de Ligue 1, 3 et Metz. On rappelle que Toulouse s'est sauvé en barrage, donc il n'y a que 2 relégués. Ils ont de l'ambition, ces relégués. On a changé de coach à Metz et à 3. À Metz, il y a notamment l'arrivée de Frédéric Antonetti. Et puis les 3 promus, le Red Star qui retrouve la Ligue 2, le Red Star qui a été champion de national. Grenoble qui signe une deuxième montée consécutive et qui retrouve la Ligue 2. Et puis Béziers, c'est une première pour Béziers. Béziers va découvrir la deuxième division. D'ailleurs, petit handicap pour les joueurs de Béziers. Ils vont débuter la saison à domicile, pas cette semaine, la semaine prochaine, au stade de la Mosson à Montpellier, puisque le stade de la Méditerranée n'est pas encore homologué. Il faudra le partager cette saison avec le rugbyman.
Pas mal de bouleversements, pardon. Tu en parlais déjà chez des entraîneurs.
Oui, il y a eu beaucoup de changements, effectivement. À Grenoble, tout d'abord, le promu, Olivier Guégan, a été limogé. Ça a fait toute une histoire. Il a été remplacé par Philippe Hinsberger. Effectivement, Troyes a misé sur Rui Almeida pour tenter de remonter Rui Almeida, qui était passé par le Red Star. On le disait, Metz a choisi Frédéric Antonetti. On retrouve Philippe Montagnier à Lens. Lens qui est ambitieux cette saison. Il prend la place d'Eric Sicora. Patrice Lhaire lui a signé à Niort. Il était plutôt connu pour avoir coaché les féminines du PSG. Il va se tester avec les garçons. Et puis au PFC, Fabien Mercadal est parti à Caen. Du coup, le nouveau coach, c'est un homme expérimenté, Mesha Bazdarevic. Enfin, dernier changement, à Sochaux, on a tout changé. À Sochaux, le club a été racheté par un groupe espagnol. Et du coup, le nouveau coach s'appelle José Manuel Eira.
Les favoris de cette Ligue 2, Benoît, cette saison.
On peut mettre Metz, évidemment. Metz qui a un effectif solide, qui a gardé une ossature de Ligue 1, qui a en plus Frédéric Antonetti. Il y a également trois qu'il faudra surveiller. Benjamin Ivet a signé une nouvelle fois. Il a 41 ans. Il jouera cette saison encore en Ligue 2. Il peut aider le club à tenter de se sauver. Après, il faudra suivre les clubs comme Lens qui ont bien recruté. Hein, Jean-Louis Leca, Mehdi Jantarat, Walid Mesloub est encore là lui aussi. Lorient qui n'a pas le droit de se rater. Michael Landreau s'est manqué la saison dernière. Pas le droit à l'erreur cette saison. Et puis Le Havre, on verra comment Le Havre digère ce match raté contre la CA en match de barrage la saison dernière.
Et pour terminer, qui va lutter pour s'en sortir?
Alors là, c'est compliqué, évidemment. Il faudra suivre le début de saison qui est prépondérant. On va surveiller les clubs comme Béziers, comme Niort, comme Orléans qui vont lutter. Le Gazélec Ajaccio. Châteauroux a perdu beaucoup de joueurs. Ça va être compliqué pour les Castelroussins. C'est très serré, la Ligue 2, jusqu'aux dernières journées. Nancy s'est sauvé à l'avant-dernière journée la saison dernière. Et évidemment, on visera cette place de 18e. On n'est pas condamné quand on est 18e en Ligue 2 puisqu'on joue le barrage contre le club de National.
Et cette saison s'annonce effectivement tout à fait palpitante, envoûtante. Ça va être bien. Ça va être bien.
Ce soir,
ça commence ce soir, 20h, coup d'envoi de 8 rencontres que vous vivrez évidemment sur RMC. Ben non, on te retrouvera tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Pour les retardataires, on manquera pas de donner à nouveau ces infos qu'on vient de vous donner. 18h46, le foot continue dans un instant dans l'intégral tour avec le mercato show. Et puis à partir de 19h, évidemment, retour sur la victoire d'étape de Primoz Roglic lors de la 19e étape du Tour de France. Pas de bouleversement majeur au classement général. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour, Arnaud Souk.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'Intégral Tour sur RMC. Je vous rappelle la victoire aujourd'hui du Slovène Primoz Roglic lors de la 19e étape du Tour de France couru entre Lourdes dans les Hautes-Pyrénées et Larens dans les Pyrénées-Atlantiques. Pas de changement au classement général puisque Geraint Thomas est toujours en jaune. Il devance Tom Dumoulin, le Néerlandais, et Primoz Roglic qui chipe la 3e place sur le podium à Christopher Froome. On parle de foot, on parle de mercato.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
Avec l'un des messieurs Mercato, justement, des RMC Sport. Salut Tristan Molinari.
Salut Arnaud, salut à tous.
C'est officiel. Golovin signe à Monaco.
Ouais, l'AS Monaco qui réalise l'un des beaucoup de l'été avec le milieu russe de 22 ans, Alexander Golovin. L'une des révélations de la Coupe du Monde 2018, qui s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. Un transfert autour de 30 millions d'euros. Monaco qui a réussi la performance d'arracher le joueur du CSKA, une concurrence très féroce puisque Chelsea et la Juventus Turin étaient très chauds sur l'international russe. Mercredi après-midi, Vadim Vassiliev avait précisé que Golovin avait pris la bonne décision, expliquant qu'il avait plus de chances d'éclore à Monaco qu'à Chelsea. Cette saison, Golovin a disputé 27 matchs dans le championnat russe et inscrit 5 buts.
Du côté de l'Olympique Lyonnais, on piste un attaquant brésilien.
Oui, Pedro, l'attaquant brésilien de Fluminense. L'Olympique Lyonnais très intéressé par le joueur de 21 ans selon nos informations. C'est Florian Maurice, le boss du recrutement lyonnais, qui a amorcé cette piste. Fluminense demanderait 12 millions d'euros pour Pedro, qui a réalisé une très bonne saison. 9 buts et 2 passes décisives en 13 matchs pour l'attaquant brésilien, qui serait également suivi par Bordeaux selon certains médias brésiliens.
Metz accueille un joueur de Chelsea.
Victorian Angban, milieu défensif ivoirien de 21 ans. Il est prêté un an avec option d'achat par les Blues. La saison passée, il a joué sous les couleurs de Beveren en Belgique. L'espoir ivoirien qui n'a jamais disputé la moindre minute avec Chelsea, qu'il avait rejoint en 2015. Le FC Metz qui a annoncé parallèlement la prolongation jusqu'en 2020 de Renaud Coad.
Digne, Lucas Digne, réfléchit à quitter le Barça.
Oui, le défenseur international français, ardemment désiré par Everton, le club anglais qui a formulé une offre autour de 20 millions d'euros pour le latéral de 25 ans. Il hésite pour le moment à quitter le club catalan. Lui est barré par Jordi Alba chez les Blaugrana. Il aimerait forcément plus de temps de jeu, surtout après la déception de sa non-convocation pour le mondial russe. Les dirigeants du Barça, même s'ils préfèrent dans l'absolu que Digne reste au club, ne devraient pas le retenir. La Juventus de Turin est également intéressée par le joueur formé à Lille, notamment en cas de départ d'Alexandro.
Théo Hernandez, proche de la Real Sociedad.
Oui, c'est la très sérieuse Cadena Ser qui parle d'un départ de Théo, donc le frère de Lucas Hernandez, né au champion du monde. Le défenseur du Real Madrid pourrait être prêté au club basque jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 20 ans a disputé 13 matchs cette saison en Liga sous le maillot du Real Madrid. Selon le média espagnol, les deux clubs auraient même trouvé un accord pour le prêt de l'espoir français.
Perisic pourrait remplacer Martial à Manchester United.
Oui, c'est le média britannique The Mirror qui évoque cette hypothèse. Ivan Perisic pourrait atterrir à Manchester United si toutefois Anthony Martial venait à quitter le club. Selon la presse anglaise, l'Inter Milan demanderait 60 millions d'euros pour l'attaquant international croate.
Un Français rejoint la Sampdoria en Italie.
Oui, Grégoire Defrel, l'attaquant de l'AS Roma, il est prêté un an avec option d'achat à la Sampdoria. De Gênes, Defrel qui avait rejoint les Romains l'été dernier après une excellente saison à Sassuolo. Il n'a pas réussi à s'imposer à la Roma, seulement un but en 20 apparitions pour l'attaquant français dans une saison tronquée par les blessures.
Et puis Ayew à Fenerbahçe, c'est officiel.
Exactement, l'ancien Marseillais qui a passé ce matin avec succès la visite médicale, le Ghanéen officiellement prêté avec option d'achat à Fenerbahçe. Le club stambouliote a officialisé sa venue en début d'après-midi. André Ayew qui quitte donc Swansea provisoirement 6 mois après l'avoir rejoint. Il avait signé avec les Gallois l'hiver dernier en provenance de West Ham.
Merci Tristan Molinéry pour toutes ces infos mercato que vous retrouvez évidemment sur rmcsport.fr à 18h54. L'intégral tour va continuer et évidemment la Dream Team est là pour revenir sur la 19e étape aujourd'hui remportée par Primoz Roglic devant Christophe Cessieux. Non, je blague, mais Christophe Cessieux, il est là.
Ben oui, maillot à poids sur les épaules, un peu à la Julien Alaphilippe.
Mais toi, t'es un phénomène, t'es un phénomène.
Paris, mais toi, tu es maillot vert toujours.
Oui, t'as bien failli abandonner aujourd'hui. Non.
Avec Peter Sagan. Très bien, on va revenir évidemment sur cette magnifique étape à laquelle on a assisté aujourd'hui entre Lourdes et la Reims. La grande bataille, enfin la grande bataille, mais qui finalement accouche d'une souris, ou presque, puisque si Roglic s'est imposé et s'il reprend la troisième marche du podium à Christopher Froome pour le classement général, pour le premier, il ne devrait pas y avoir de changement et Geraint Thomas sera probablement en jaune dans 48 heures à Paris. On va revenir sur tout ça, on va revenir également sur le coup d'orgueil de Romain Bardet qui termine troisième de l'étape et qui récupère une place au classement général, il est ce soir septième. Enfin, on évoquera donc le contre-la-montre particulièrement difficile de demain au Pays Basque. À tout de suite, juste après les infos 19h.
RMC Intégral Tour.